Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un univers assez particulier, tiré des extraits de garderef.pdf.
Bonjour. Oui, on va suivre Louis dans sa quête un peu folle pour retrouver sa femme, Antoinette.
C'est ça. Un voyage vraiment surréaliste, plein de rencontres étranges, de lieux improbables. On va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble.
Alors, pour commencer, le cadre initial est déjà assez parlant, je trouve. Louis quitte son centre d'affaires pour aller chercher Antoinette au Garden Center.
Et le détail qui tue, les deux sont en périphérie.
Exactement.
C'est une ironie géographique, d'emblée. Ça nous dit que, bon, les repères habituels sont un peu chamboulés, quoi.
Tout à fait. Et Antoinette elle-même, cette princesse d'après la Révolution, qui est maintenant caissière.
Oui, un des seuls métiers autorisés, apparemment. Elle vend des fleurs, des objets de jardin, mais aussi, c'est dit, des rêves.
Des herbes fumées, des billets de loterie.
C'est ça. Et Louis qui l'attend à côté d'un jardin chinois miniature.
Ah oui, cette mise en abîme.
Un petit monde dans le monde, ça donne le ton. Hein. On est déjà dans quelque chose d'un peu flottant, entre réel et illusion.
C'est exactement ça. Et le voyage de Louis ne fait que confirmer cette impression. D'abord, il tombe sur le labyrinthe du temps.
Oui, par hasard. Il y rencontre un vieil homme qui, lui, cherche le sens de l'histoire depuis des lustres.
Alors que Louis, lui, cherche juste Antoinette. Simple, basique. Le contraste est saisissant.
Complètement. Et ça continue cette série de rencontres étranges avec le quasi-bouffe.
Ah, le quasi-bouffe. Alors là, racontez-nous un peu.
Ben, c'est un restaurant-spectacle assez violent, en fait. Des hommes en costume qui essayent d'attraper de la nourriture, une bouillie, sur le plateau d'une serveuse en patin.
Et ils s'écrasent contre une vitre blindée.
Voilà.
Une formule qui viendrait d'outre-océan, basée sur le challenge et un zeste d'érotisme.
Et on précise que le contenu de leur mallette importe peu. C'est glaçant de vide, non?
Oui, difficile de ne pas y voir une critique assez acide du consumérisme, de l'absurdité de certains challenges modernes.
C'est très clair. Après ça, on arrive au musée de l'enfance, encore un lieu...
particulier, oui.
Une esplanade, des enfants en patin, et cette statue qui s'anime.
Le compteur d'enfants. Sauf qu'il dit « je les compte ». Il fait le compte des enfants.
Exactement. Et il fait ce lien terrible entre la rareté des enfants, la disparition des comptes traditionnels et le fait qu'on met les grands-mères en maison de retraite.
Comme si la transmission était rompue.
C'est ça. Et cette idée que les enfants, parfois, ils se perdent dans les comptes, ça touche au cœur du sujet. Où finit le réel? Où commence l'imaginaire?
Et cette frontière devient très concrète avec les gardes-rêves.
Ah oui, ces gardes en armure de conquistadors, ils sont sur une frontière, mais on ne sait pas laquelle.
Ils contrôlent l'identité de Louis, oui, il est prince consort, mais Antoinette, inconnue au bataillon.
Leur rôle, c'est de protéger les rêveurs, de maintenir un ordre. Mais quel ordre? L'ordre du rêve. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté.
Cette idée de seuil, de passage, est omniprésente.
Et elle mène Louis à l'oracle.
Dans un temple en ruine, après une escalade dangereuse, une scène vraiment... marquante.
Vrai, cette figure du Christ clouée au mur, qui murmure juste « méfiez-vous des Juifs ».
C'est d'une brutalité.
Oui, et le vieux sacristain, qui essaye de dédramatiser en parlant de son enfance difficile et de l'économie du guano de pigeon.
C'est l'absurdité poussée à son paroxysme, peut-être. Le texte nous livre cette parole choquante, brute, juxtaposée au sacré dégradé et au trivial. Ça renforce l'étrangeté, la perte de sens. On rapporte la chose, mais sans cautionner, évidemment.
Bien sûr. Louis, révulsé, continue sa route. Il prend une calèche, le horiario, tiré d'une chanson d'enfance, entendue à la radio.
Encore un mélange des genres, des souvenirs, de la réalité.
Puis, il arrive dans cet hôtel. L'hôtelier est un autre garde-rêve.
Et il lui donne cet avertissement très important, surtout ne pas dormir.
Pourquoi?
Pour ne pas se perdre dans des rêves qui s'emboîtent, ou pire, dans le rêve de quelqu'un qui n'existe même pas.
L'angoisse.
Oui. Et l'hôtelier doute même des nouvelles de la radio un accident nucléaire. Il se demande si ce ne sont pas des cauchemars de voyageurs égarés dans le labyrinthe du temps.
La réalité elle-même devient suspecte, quoi.
Tout à fait. La traversée sur le Sirius continue dans cette veine. Il y a ce passager clandestin.
Une tradition maritime, nous dit-on.
Oui. Et ce clandestin qui accuse Louis de l'avoir entraîné dans son rêve absurde. Il devait aller aux Antilles, il se retrouve en Écosse.
À Quiltoche, le clin d'œil à Haddock, mentionné par un autre passager, ajoute à la confusion générale entre les niveaux de fiction.
C'est ça, la logique personnelle contre l'arbitraire de l'univers onirique. À Quiltoche, il y a quand même un petit moment d'espoir.
Ah oui?
Il trouve le mot « garden center » dans un dictionnaire arabe.
un petit fil ténu de réalité, de sens.
Un fil bien mince.
Et finalement, il retrouve Antoinette.
Oui, dans une chaumière isolée, avec une vieille femme qui fait un peu penser à une sorcière de Macbeth.
Ils ont vieilli, semble-t-il. Et leur retrouvaille, c'est presque le plus étrange.
Oui, ce contraste. Après tout ce périple incroyable de Louis, il se pave de quoi ? Des bilans ? De la caisse ?
Le quotidien le plus plat.
C'est déstabilisant.
Ça souligne peut-être l'incommunicabilité, l'usure, ou juste le décalage entre l'aventure intérieure et la vie partagée. Ils dorment, enfin, sans rêve cette fois.
Épuisés sans doute. Le lendemain matin, la vieille a disparu.
Ils partent. Le sentier s'efface sous leurs pas. Il n'y eut plus que la lande.
Et ils se retrouvent face à un mur gris, une dernière frontière.
C'est là que ça se termine. Antoinette demande à Louis de lui prendre la main.
Pour essayer de passer ensemble de l'autre côté.
Et voilà, on les laisse là, sur ce seuil indéfini. C'est quoi, ce mur pour la sortie du rêve, une autre réalité, la mort?
Ou peut-être juste la condition humaine. Cette nécessité de tenir la main de l'autre face à l'inconnu, à l'absurde.
C'est une fin très ouverte, qui nous laisse avec cette image forte, cette question sur la quête de sens et de lien dans un monde qui nous échappe souvent. Une interrogation qui résonne, je crois.